Chapitre 115. DJ revient dans le hall, trempé de pluie, en passant tout droit par la porte brisée. Il hurle quelque chose et jette le pistolet contre le mur. L'arme éclate en plusieurs morceaux qui s'éparpillent sur le sol, jusque sous les meubles du coin salon. Allongé sur le côté, Rex arrive tout juste à respirer. Sa blessure au ventre lui brûle, et chaque mouvement le fait tellement souffrir qu'il doit lutter pour ne pas s'évanouir.
« Qu'est-ce que tu faisais dehors ?»
demande-t-il d'une voix saccadée. Il tente de se relever, mais ses jambes se dérobent et il tombe à genoux. Il presse sa main contre la blessure. Son champ de vision rétrécit pendant quelques secondes, puis il voit que DJ enroule de nouveau la lanière garnie d'oreilles de lapin autour de sa tête et vient vers lui, un couteau noir à la main. Les oreilles se balancent à chacun de ses pas.
« Sammy n'est qu'un enfant !»
allait Rex. La douleur et le choc l'empêchent de comprendre pleinement ce qui se passe. DJ le pousse en avant et il se rattrape avec les mains. Puis il sent qu'il se fait taillader le dos. Ses bras cèdent et il s'étale à plat ventre.
« Ne fais pas ça, »
geint-il lorsque DJ le force à se relever. Rex n'a aucune idée de la gravité de sa blessure au dos. La crainte que Sammy soit mort prime sur tout le reste. DJ le pousse de nouveau devant lui, le fait sortir sous la pluie par la porte saccagée. Terrorisé, il cherche des yeux le corps de Sammy sur le chemin qui descend vers l'église. La pluie se déverse sur lui et ses vêtements sont vite trempés et froids. Il sent le sang chaud qui jaillit entre ses doigts quand il plaque ses deux mains sur sa plaie au ventre. Les violentes rafales de pluie tourbillonnent sur le chemin de terre, formant de larges rubans mousseux. Il fait quelques pas et ressent une fatigue vertigineuse. Tout ce qu'il voit tressaille comme si quelqu'un essayait de déraciner le monde.
« Sammy !»
lance DJ à travers la pluie. Rex se met à pleurer de soulagement en comprenant que Sammy s'en est tiré, que DJ l'a perdu dans l'obscurité.
« Sammy !» rugit DJ en écartant les oreilles de son visage.
« Regarde ton papa maintenant !»
Rex avance en titubant et tente de parler, mais ne fait que tousser du sang. « Appelle Sammy !» ordonne DJ. « Dis-lui de sortir, dis-lui que tu l'aimes, que tout s'arrangera si seulement il... » Rex s'arrête hors d'haleine à l'intersection hantée. Il refuse de jouer le jeu. Furieux, DJ passe devant lui et le frappe au visage avec le manche du couteau. Il vacille, mais parvient à garder l'équilibre et lève le menton. « Appelle Sammy !» lui intime DJ sur un ton menaçant.
« Jamais !» souffle Rex. Tel des voiles déchirées, la pluie cingle l'air et les flaques d'eau semblent en ébullition.
Dans la vallée, la vieille église peinte en rouge de Falin traditionnel se dresse comme un bout de bois éraflé parmi les croix blanches de l'ancien cimetière des bâtisseurs de la voie ferrée.
« Je comprends !» siffle Rex. « Je comprends que tu penses... Tais-toi !»
rugit DJ.
« Je n'ai pas violé, je vais t'égorger !» hurle DJ.
Loin en contrebas, sur la route européenne 10, apparaît la lueur bleue et surnaturelle des voitures de police qui s'approchent.
« Sammy !» crie de nouveau DJ.
Rex songe que son fils s'en sortira pourvu qu'il reste caché. « Continue de marcher !» lui commande DJ. Rex le regarde dans les yeux, puis se laisse tomber à genoux au milieu de l'intersection. Ça suffit comme ça. DJ essaie de le forcer à se relever. Il le frappe sur la joue et lui hurle de continuer à marcher. Rex reste à genoux. Il n'a plus aussi mal. DJ tire sur ses bras le faisant osciller, mais Rex ne se lève pas. Il ferme les yeux, les rouvre et pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Quand soudain il voit une silhouette se détacher au loin dans la pluie. Quelqu'un arrive sur la piste en direction du carrefour. Jonah rejoint le chemin de terre battue. Il marche sous la pluie, se dirigeant vers les deux personnes à l'embranchement. Le sol tout entier semble trembler. Il savait qu'il disposait de 19 minutes exactement pour sauver Rex à partir de l'instant où la balle lui avait perforé le ventre. L'assassin a suivi le même schéma chaque fois. Il ne reste que 2 minutes. Jonah était sûr d'avoir le temps d'éloigner Sammy et de revenir avant que David Jordan estime le moment venu d'exécuter Rex.
La pluie coule sur ses sourcils et il a du mal à voir. Le pistolet bouge dans son étui sous la veste ruisselante à chaque pas qu'il fait. Le tueur ne sait pas encore qu'il est armé. Le chasseur de lapins attrape Rex par ses cheveux mouillés et tire sa tête en arrière, mais il laisse la lame du couteau reposer sur son épaule. Fixant l'homme qui s'approche, il a du mal à comprendre ce qu'il veut. Pourquoi revient-il? Il devrait pourtant saisir la gravité de la situation, devrait tout faire pour rester à l'écart. Les véhicules d'urgence seront là dans 5 minutes. C'est bien. Il dispose d'assez de temps pour faire ce qu'il doit faire. Rien d'autre n'a d'importance. Il consulte sa montre. L'ordre de la vengeance est parfait. Rex a lui-même engendré le vengeur lors du viol. À l'instant du crime, 2 cellules fusionnent et déclenchent la vie qui se développe dans l'utérus de Grace. Le fœtus qui la suit jusqu'à Chicago, l'enfant qui naît en secret et grandit pour devenir un chasseur de lapins, qui 30 ans plus tard revient pour punir le responsable. L'inconnu sur la route avance à grandes enjambées. La pluie tonne au-dessus d'eux et fouette les buissons qui se couchent. Le chemin est tellement gorgé d'eau qu'on dirait qu'il est recouvert d'une pellicule de verre sombre. Sans se presser, le chasseur de lapins déplace la lame vers la gorge de Rex et voit l'homme de grande taille qui semble suspendre son avancée entre 2 pas. En un seul mouvement doux et concentré, il ouvre sa veste, y glisse la main et dégaine un pistolet. Le chasseur de lapins n'a pas le temps de réagir. C'est comme s'il ne comprenait pas, comme s'il ne pouvait pas accepter ce qui se passe. Jonah marche vite pendant qu'il vise et tire 3 balles dans la poitrine de David Jordan. Le recul se fait sentir et les flammes blanches du canon scintillent comme de petites explosions dans la lumière grisâtre ambiante. Les gaz propulseurs se dissipent dans la pluie battante et les douilles sont éjectées sur le chemin de terre. David Jordan recule en titubant et s'effondre lourdement. L'écho sourd des 3 détonations résonne entre les flancs de montagne. Jonah arrive près du tueur, le pistolet dirigé sur son visage, et repousse le couteau du pied. Il pleut toujours des cordes. Allongé sur le dos, David Jordan le regarde fixement. « Alors finalement, tu avais un pistolet depuis le début, » dit-il, stupéfait. Constatant que les 3 plaies d'entrée des balles sont regroupées entre les muscles pectoraux, Jonah sait que David Jordan n'a plus que quelques minutes à vivre. Il n'y a plus rien à faire pour lui. L'eau qui s'écoule dans les sillons creusés dans le chemin emporte le sang avec elle. Jonah tient son pistolet plaqué sur le front de David Jordan et fouille rapidement ses vêtements avant de se relever et de remettre son arme dans le holster. David Jordan tousse du sang sur sa barbe et fixe le ciel noir. La pluie qui tombe lui donne la sensation vertigineuse d'être propulsé vers le haut, à grande vitesse. Rex est toujours à genoux, au milieu du carrefour. Il refuse de s'étendre quand Jonah essaie de lui venir en aide. « Sammy, » allait-il. « Il va très bien, ne t'inquiète pas, » dit Jonah, et il parvient à l'allonger sur le côté. Rex a les lèvres blanches et son corps est secoué de tremblements de fièvre. Jonah déchire sa chemise et voit le sang qui jaillit du trou d'entrée dans l'abdomen. Un des reins est probablement atteint. Il souffre terriblement et ne va pas tarder à entrer en état de choc. Le téléphone de Jonah sonne. Voyant que c'est Saga, il répond et lui dit qu'il ne peut pas lui parler. C'est important, dit Saga. J'ai parlé avec Grace, à nouveau, et j'ai compris que Rex est le père de David Jordan. Mais il n'a pas participé au viol, objecte Jonah. David Jordan est toujours étendu sur le dos, la bouche ouverte, mais ses yeux clignent quand des gouttes d'eau s'y introduisent. Les premiers véhicules de secours dépassent la petite église. La lumière bleue balaie le bois rouge à travers les rideaux de pluie. Jonah met le haut-parleur et pose le téléphone sur une des pierres rondes qui marquent le bord du chemin. « Tu entends ce que je dis ?» poursuit Saga. « Oui, » répond Jonah, pendant qu'il aide Rex à relever un peu ses genoux pour diminuer la pression sur la cavité abdominale remplie de sang. « Ça n'a peut-être plus tellement d'importance, » dit-elle. En réalité, David Jordan n'est pas né d'un viol, comme on l'a cru. Il est né d'une histoire d'amour.
Saga continue de parler, mais sa voix est couverte par des crépitements et se modifie pour disparaître complètement lorsque l'écran s'éteint. Rex essaie de tourner la tête pour regarder DJ, mais il n'en a pas la force. Son sang ruisselle entre les doigts de Juna et coule sur le gravier de la piste. Policiers et ambulanciers se précipitent vers eux en courant. DJ a cessé de respirer. Son visage est très calme. Il a peut-être entendu les paroles de Saga avant de mourir. Il a peut-être compris ce qu'elle annonçait. Juna Lina se relève lentement et commence à descendre la pente. Il voit que Sammy accompagne son père dans l'ambulance. La pluie diluvienne tombe sur la vallée et le grand lac. Le paysage est nimbé de gris et d'argent.